Chapitre 43. La Jeep et le Rhino GX roulent sans encombre sur l'Interstate 35 jusqu'à ce qu'ils tombent, au nord d'Austin, sur un semi-remorque qui s'est mis en travers de la route. L'accident a eu lieu quelques minutes plus tôt et des centaines de cartons de chaussures de sport colorées se sont déversés sur la chaussée, recouvrant partiellement une Mini Cooper qui s'est encastrée dans la glissière de sécurité. Deux agents de la police de la route sont déjà sur place et une ambulance se faufile sur la bande d'arrêt d'urgence, le long des voitures arrêtées. L'embouteillage provoqué par l'accident s'est formé si vite que Godfrey se retrouve bloqué au milieu des autres voitures avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Il reste un instant perplexe, se demandant ce qu'attend de lui le grand ordonnateur, puis il descend du Rhino afin de voir s'il lui est possible de s'extirper de la nasse et de remonter la bande d'arrêt en contresens jusqu'à la sortie précédente. Sur ces entrefaites, arrive un troisième agent de la police routière qui dépose des fusées éclairantes le long de l'autoroute, de façon à libérer la bande d'arrêt d'urgence pour les véhicules de secours. Godfrey hèle le flic au passage et lui montre son badge du FBI.
Je vais vous demander de nous aider. Nous avons une urgence avec mes collègues qui roulent dans cette Jeep Wrangler.
Le flic, un colosse de plus d'un mètre 90 aux allures de catcheur, dévisage longuement Godfrey, le front barré d'un pli. On pourrait croire que son interlocuteur débarque d'une autre planète.
À ce stade, monsieur, votre badge a autant de valeur à mes yeux qu'une carte de bibliothèque. Notre priorité est d'évacuer les blessés et de rouvrir la route à la circulation.
Sur ces mots, il plante la Godfrey qui s'énerve.
Donnez-moi votre nom et votre numéro de badge. Je ne réponds de rien si nous ne sommes pas à Killeen dans moins d'une heure.
Le flic se retourne en se gonflant de son importance.
Sauf votre respect, monsieur. Si vous devez vraiment être à Killeen dans une heure, je vous conseille de vous mettre une hélice au cul et de péter très fort.
Godfrey en reste interdit et choisit de ne rien répondre, sans doute guidé par la sagesse. Il rejoint la Jeep, à trois véhicules de là, s'entretient avec Rupert et regagne le Rhino. Il s'installe au volant, descend les vitres et tente de se convaincre que ce délai n'a guère d'importance.
Rien n'a de sens, de toute façon. Le semi-remorque accidenté n'existe pas plus que les chaussures éparpillées sur la chaussée, le flic mal embouché, ou même Killeen.
Godfrey doit se laisser porter. Il s'étonne toutefois d'éprouver une furieuse envie de descendre du Rhino, de sortir son pistolet et d'abattre le flic d'une balle dans le dos. Il a cependant l'intuition qu'il s'éloignerait gravement du scénario en agissant de la sorte, au point d'en payer les conséquences. Tandis que Godfrey s'entête à n'être qu'un esprit pur délivré de toute contrainte matérielle, les occupants de certains véhicules ont pris la mesure du trésor en chaussures qui s'est échappé de la remorque. Les portières s'ouvrent et de nombreuses personnes se ruent sur les baskets à 500 $. En transe, les pillards regagnent leurs véhicules les bras chargés de chaussures, les déversent en hâte dans l'habitacle, puis retournent se servir, sous les regards outrés et apeurés des autres automobilistes. Ces voleurs ne sont pas réels, pas plus que les baskets qu'ils convoitent. Tout ça n'a aucun sens. Egon Godfrey se laisse porter. Mais en repensant à Killeen où se trouvent sans doute encore Hansel et Claire Hawke, il regarde machinalement la matraque télescopique posée sur le siège passager et se souvient du cow-boy ivre. Il aimerait réserver le même sort à quelques-uns de ces amateurs de baskets.